Cinérama.
Cette nuit, notre piston émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 4 juin, c'est l'émission hebdomadaire de cinéma. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et aujourd'hui, eh bien, on a liquidé Cannes, ça c'est fini. Il y a pas mal de films qui sont sortis et c'est toi aujourd'hui qui va faire la plus grosse partie de l'émission.
Les bons films sortent plutôt cette semaine, hein, je oui. dirais. Mais voilà, bon, donc j'ai vu le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire d'après le best-seller littéraire. Et puis, la production Disney, Maléfique. Enfin, on va peut-être enfin pouvoir parler de la vengeance de Vinnie Morgan qui, à chaque fois, est annulée pour cause d'émissions trop longues.
Oui, et alors qu'aujourd'hui, ça risque d'être une émission un peu courte. Moi, j'avais prévu de vous parler de Dom Hemingway. C'est donc un film avec Jude Law en guest star. Alors, il se trouve qu'il n'y a que 12 copies en France pour un film de Jude Law. Donc, je vais en parler, mais vraiment timidement. Mais ça donnera l'occasion quand même de jouer à un blind test. Vous aurez 6 extraits de films et vous essaierez de deviner. Enfin, toi, surtout Manu. Hein, après, les auditeurs, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils peuvent faire autre chose. Mais en tout cas, chacun peut jouer en écoutant son transistor. Donc, vous pourrez essayer de découvrir les films dans lesquels a joué Jude Law. Pardon. C'est Cinérama et ça commence maintenant.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Succès surprise de la littérature suédoise, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire est, une fois n'est pas coutume, un bon livre populaire, plein de charme et de fantaisie, écrit dans un style enlevé où brille un sens réel de l'absurde et du burlesque. Un de ces bouquins qu'on ne regrette pas d'avoir dévoré en lézardant sur une plage et qui nous réconcilie temporairement avec les best-sellers qui ne sont pas tous signés, Guillaume Musso, Marc Lévy ou Catherine Pancol. Voilà, en racontant l'histoire d'un vieillard qui s'échappe d'une maison de retraite le jour de ses 100 ans pour faire les 400 coups, avec en parallèle l'histoire de sa vie où ce monsieur quand même pas banal rencontra Truman, Staline, Hitler et Reagan, entre autres, puisque je crois qu'il y en a même d'autres. Jonas Jonasson a écrit un de ses romans énormes et cocasses dont on se demandait à la lecture comment une adaptation ciné serait-elle possible. Alors c'est chose faite aujourd'hui et la réponse c'est sans appel. La transposition des aventures tragicomiques du centenaire entouré de quelques hurluberlus et d'un éléphant est une purge sans nom, un film d'une mollesse et d'une laideur qui brille par son absence de fantaisie, d'humour et d'originalité, incombe quand on pense à la matière même de l'histoire, à ce très rocambolesque et titillant constamment l'imaginaire.
Vous connaissez beaucoup de monde?
Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous aider?
Le camarade Staline veut que tu lui dises absolument tout ce que tu sais sur la bombe atomique.
Mais est-ce que je pourrais avoir un petit remontant avant?
Il faut que vous m'aidiez à retrouver un mec. Il a 100 ans. Il s'appelle Alan Carlson. Et il a mon fric. Ramenez-le-moi de toute urgence.
Allô?
Toi, le guignol, tu es mort.
Si vous avez l'intention de me tuer pour vous dépêcher, j'ai 100 ans.
Enfoiré. Alan! Fais quelque chose!
Une bande-annonce très visuelle, hein, en fait, hein, même si là, il y a
un
peu de musique.
Oui, pour un film qui ne l'est pas tellement.
Ouais. Tu veux dire qu'ils ont condensé, ils ont triché un peu.
Bah, les bandes-annonces, on fait un peu ce qu'on veut avec, hein, finalement. Hein. Alors, le réalisateur, Felix Herngren, un bon élève appliqué, suit pourtant le roman à la lettre, omettant, cela dit, l'épisode Mao pour une raison qui m'échappe, mais au moins le film se voit raccourci d'au moins 15 minutes. Les personnages sont fidèles en surface, le côté vaudeville policier tournant autour d'une mallette pleine d'argent est respecté, les dialogues sont reproduits à l'identique et pourtant rien ne fonctionne. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire ressemble à un mauvais téléfilm, vieillot et désespérément sinistre. Le plus gênant tient aux comédiens pathétiques pour la plupart. Le grand écart entre le monolithisme de l'acteur principal, Robert Gustafsson, pour moi deux expressions, même si j'ai lu dans la presse qu'apparemment il n'est pas mauvais, mais moi j'ai trouvé absolument rien de transcendant. Et puis le cabotinage des autres enterre toute indulgence vis-à-vis de ce produit destiné au marché international. On ne se rattrape même pas sur les beaux paysages suédois gâchés par une mise en scène d'un autre âge, enchaînant les champs contre champs intempestifs, les zooms hors propos. Il y a toute une série de zooms ultra rapide au début du film, je me suis dit, mais c'est une mise au point, enfin, ils font une erreur de mise au point. On se croirait revenu dans les années 70. Il y a tout un cinéma, notamment italien, qui employait les zooms sans arrêt. Et là, ça fait un peu étrange. Ça fait très, très, très daté. Et le tout baignant dans une lumière pseudo-naturaliste assez moche. Et je passerai sous silence l'utilisation calamiteuse du numérique pour les diverses raisons. Les diverses reconstitutions d'époque. Vous l'aurez compris, bon bah j'ai assez détesté le film, j'ai souffert pendant presque 2 heures. Alors je pensais en visionnant au film aux divers cinéastes susceptibles d'adapter ce type d'ouvrage loufoque et gentiment poétique. Et un seul m'est venu à l'esprit, c'est Wes Anderson. En voyant ce type de film un peu fantaisiste, je pensais vraiment que c'était Wes Anderson était vraiment le cinéaste idéal.
Y avait des couleurs, en tout cas, en regardant la bande-annonce, puisque je n'ai pas vu le film, mais quand on voit la bande-annonce, ça peut faire penser à Wes Anderson et le côté un peu footrack.
Il manque tout, parce que Anderson, il possède le sens du cadre, de l'ellipse, de l'humour, il y a une folie qui manque totalement à ce navet qui est inodore et incolore. Définition d'un navet, d'ailleurs.
Un navet, donc, suédois.
Un navet suédois, voilà.
Bonjour Marine.
Oui, bonjour.
Quelle surprise.
Oui, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, j'ai fait ma Belle au bois dormant.
Oui, parce que en fait, je n'ai pas écrit la chronique sur Maléfique, mais je commençais à flipper quand elle m'envoie un texto pour me dire que les contrôleurs ont arrêté le tram.
Deux fois.
Mon
et Dieu. Je suis tombée sur le conducteur de tramway le plus lent du monde. Je pense qu'il venait juste de passer son permis tramway et c'était une catastrophe.
Il y a des procédures, Marine, il y a des procédures.
Et là, j'aurais été bien embêtée s'il m'avait fallu chroniquer
Maléfique.
J'aurais parlé de la version de Disney, La Belle au bois dormant, j'aurais meublé un peu pendant un moment.
Qui est beaucoup moins bien d'ailleurs, donc heureusement que je suis revenue.
Eh bien, c'est le retour de Marine donc, qu'on apprécie, et avant de retrouver le blind test, c'est donc Maléfique.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM. Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors non.
Alors, je pense qu'il y a un petit souci au niveau... C'est pas grave. Alors donc, cédant à mon éternel amour, comme vous le savez, pour Angelina Jolie, avec ou sans sein, j'ai donc été voir Maléfique, le dernier Disney. Et je dois dire que j'étais agréablement surprise. Alors, le but était simple, mais assez novateur pour l'industrie de la souris à grandes oreilles, réaliser à la fois un préquel et un reboot de l'histoire de La Belle au bois dormant. C'est-à-dire, en même temps, raconter ce qu'il s'est passé avant le mythe et reprendre totalement l'histoire initiale. Sauf que cette fois, l'histoire sera racontée du point de vue de la méchante fée. Maléfique, c'est son nom, donc, règne sur un royaume féerique, voisin de celui des hommes, et rencontre au cours de son adolescence un jeune humain dont elle tombe amoureuse. Mais l'ambition de ce dernier, dont le rêve est de devenir roi, finit par causer sa perte, puisqu'il la trahit et lui vole les ailes qui lui conféraient toute sa puissance. Aveuglé par son désir de vengeance, Maléfique sombre dans le mal et ressurgit lors de la naissance de la fille de son ex, on va l'appeler comme ça, lui lançant un sort qui la condamne à se piquer donc le doigt le jour de son 16e anniversaire et à plonger dans un sommeil éternel.
Vous avez entendu parler d'une contrée lointaine et d'une malédiction, mais vous ne connaissez pas la véritable histoire.
Aussi offrir un cadeau à cet enfant.
Avant le coucher du soleil, le jour de son 16e anniversaire, elle tombera dans un sommeil éternel.
Elle est si laide, elle pourrait presque inspirer de la compassion. La vilaine petite curieuse. Amenez-la moi.
Je sais que vous êtes là. N'ayez pas peur.
Je n'ai pas peur de toi.
Alors montrez-vous.
C'est toi qui pourrais avoir peur.
Toutes les autres fées peuvent voler. Pourquoi pas vous?
J'avais des ailes autrefois, belles et fortes. On me les a volées. Le mal fait partie de ce monde. La haine et la vengeance.
Alors, le point fort de ce film mélangeant animation et prise de vue réelle n'est pas sa mise en scène, quoi qu'elle soit plutôt de qualité, mais bien son propos étonnamment progressiste. Vous vous doutez bien que si j'en parle, hein, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que, bon, bah, jusque-là, Disney, niveau féminisme, c'était pas reluisant. Hein. L'industrie avait beau remasteriser les mythes comme bon lui semblait. On se souvient notamment de la réinterprétation, mais alors complètement fantaisiste, d'une Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Bah, les personnages féminins s'en trouvaient rarement dépoussiérés. Ça avait mal commencé avec une Blanche-Neige qui faisait le ménage chez sept nains avant de tomber dans les pommes. Ça n'avait pas très bien continué avec une Cendrillon, encore femme de ménage, hein, dont le plus grand espoir était de se marier avec un prince et de devenir une femme au foyer. Sans compter la déprimante petite sirène dont le prince tombait amoureux lorsqu'elle devenait muette. Bref, à force de nous montrer des héroïnes passives et qui ne deviennent désirables que lorsqu'elles revêtent une belle robe, les écuries Disney nous avaient depuis toujours sournoisement conditionnées à devenir femmes de footballeurs. Certes, il y avait eu Jasmine, princesse bling-bling avant l'heure, qui avait enfin compris qu'il fallait mieux porter un pantalon. C'était plus pratique pour faire le mur et aller faire les coups, les 400 coups plutôt, avec Aladdin. Et puis Pocahontas, qui ne devait pas fumer que l'air du vent et qui défendait son pays contre l'hégémonie américaine. N'empêche que ces deux-là se réservaient malgré tout pour leur prince charmant et que, n'ayant pas Facebook pour poquer les gens, leur vie sociale se résumait à traîner avec au choix un tigre ou un raton laveur. Mais avec Maléfique, fini les héroïnes passives au cœur pur, le personnage principal est solitaire et combatif, sorte de célibataire paroxystique blasé de l'amour qui défend seul son royaume et oppose à l'adversité masculine une indépendance de femme moderne. La scène d'affrontement final durant laquelle Maléfique doit combattre une armée entièrement constituée d'hommes n'est d'ailleurs pas exempte de symbolisme. Et sans vous dévoiler la fin, et ben on pourrait même se risquer à dire qu'il s'agit du premier Disney gay-friendly. Oui. Alors bien évidemment, le film n'en demeure pas moins à destination des enfants, avec tout ce que cela comporte comme personnage neuneux et humour au premier degré. Le personnage de la jolie princesse, enfin, jolie si on aime les blondes, garde les attributs très naïfs des égéries des dessins animés, mais une fois confrontée à Angelina Jolie, elle semble presque faire office de caricature, à tel point d'ailleurs qu'on se demande si les studios Disney ne versent pas volontairement dans l'autodérision. Il y a également un personnage de prince charmant qui est complètement abruti et inefficace, et qui est vraiment très drôle. Donc en définitive, bah, même si en tant qu'adulte, le film ne provoque pas chez moi un grand intérêt, bah, je dois reconnaître que si j'avais des enfants, j'aimerais bien qu'il y ait pour eux un peu plus de films comme ça, qui sont à la fois divertissants et qui proposent une vision du monde un peu plus ancrée dans la modernité, quoi, dans l'air du temps.
Effectivement, hein, si, voilà. c'est sans doute volontaire, hein, si tu as vu Le Prince Charmant comme ça, complètement bête.
Oui, on dirait qu'il sort de One Direction, je ne sais pas si vous voyez ce boys band horrible où ils ont tous des mèches et qui cartonnent en France. Bah, il a vraiment cette tête-là et il ne fait que sourire. Et en fait, quand il veut embrasser la princesse à la fin, ça ne marche pas du tout. Mmh. Il l'embrasse et il ne se passe rien. Donc voilà, c'est sa seule apparition dans le film.
Eh bien, merci Marine pour
Donc Maléfique, je précise apparition. Que c'est à voir en 3D. Je pense qu'on peut le voir qu'en VF par contre. Et c'est au Gaumont et Gaumont Multiplex et au Royal.
Mmh. Et beaucoup d'effets spéciaux, hein, pareil. Ah, on a écouté une bande-annonce là qui était très visuelle aussi.
Oui, ça mélange vraiment des vrais comédiens et des décors entièrement numériques et des faux personnages, pareil, en 3D, tout ça. Mais c'est très bien fait, c'est plutôt agréable à regarder.
Eh bien, c'est parfait, tu vas pouvoir jouer au Blind Test pour découvrir quels sont les films dans lesquels se cache Jude Law.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors, Jude Law n'est plus si bankable que cela en France. Lui qui est pourtant l'égérie de Dior, Parfum pour Homme, voit son dernier film distribué avec 10 copies en France. Quand La Mente religieuse, un premier film français un peu sulfuré, obtient 48 copies, dont une au CGR de Lattes. Alors, aucune copie de Dom Hemingway en Languedoc-Roussillon. Alors, on se demande, eh bien, qu'en serait-il si les régions passaient de 22 à 14 ? Eh bien, cela changerait tout, puisqu'une copie s'est égarée au CGR de Blagnac, près de Toulouse. Et donc, comme le Languedoc-Roussillon va être attaché à Midi-Pyrénées, eh bien, nous, voilà, il y en aurait eu au moins une dans la région. Alors, est-ce que c'est une si grande perte que ce dernier film avec Jude Law soit invisible ? Alors, déjà, on voit Jude Law avec 10 kilos en trop, bavard, volontiers grossier, victime d'un scénario qu'on aperçoit à des kilomètres. La première séquence donne le ton, alors aussi de la comédie. On voit Jude Law qui parle de son sexe, comment il faut l'admirer, que c'est un trésor de l'univers, et ainsi de suite. Alors, après, on voit qu'il est en prison, mais il en sort très vite. Enfin, il y a une ellipse de 12 ans quand même, il y a passé 12 ans, donc en tôle. Alors, une fois dehors, il ne pense qu'à se venger et récupérer l'argent qui paiera son silence, aidé par son meilleur ami, interprété par un Richard E. Grant, tout en retenue quand Jude Law, lui, cabotine. Rien ne se passera comme prévu et sa fille, qu'il n'a jamais vue grandir, va subitement devenir un enjeu. Et cet être grossier, égoïste et violent va se découvrir un père, voire un probable grand-père. Donc rien de nouveau dans ce film qui est avant tout une comédie colorée et dopée à la musique punk avec quelques scènes et dialogues qui font mouche mais pas autant qu'un Sherlock Holmes filmé par un Guy Ritchie. Et notamment, alors ce qui est très étonnant, il y a des séquences qui sont tournées en France avec notamment les Vents Passent, un extrait de la musique des Vents Passent. Parce que voilà, c'est dopé au rock'n'roll un peu ce film. Un petit extrait. Voilà, un peu plus ce serait de la gourmandise. Donc voilà, c'était un petit extrait de la bande originale du film que vous ne verrez pas à Montpellier. C'est Dom Hemingway, mais ça donne l'occasion donc de jouer un blind test spécial Jude Law avec un premier extrait très facile.
On ne peut pas rester ici. Les idiots à qui j'ai affaire, tu ne peux pas imaginer.
Ils croient que j'ai tué le directeur de la mission.
Qu'est-ce qui lui a fait croire ?
Ils ont trouvé un de mes cils.
Où ?
Dans un couloir.
Ah, eh bien, ça pourrait être pire. Ils auraient pu le trouver dans ton œil.
Ils ont affiché ma photo sur tous les écrans de leur réseau informatique. Je ne peux pas me retourner sans voir mon visage. Ils vont me reconnaître.
Ils ne vont pas te reconnaître.
Je sais qu'ils vont me reconnaître.
Moi, je ne te reconnais pas du tout. Ils ne feront pas le rapport entre le cil et toi. Jamais ils ne voudront admettre qu'un membre de leur élite ait pu tous les berner depuis si longtemps. Non, on ne change rien. On fait comme prévu. Tu es Jérôme Moreau, navigateur première classe.
Je ne suis pas Jérôme Moreau. Je suis le suspect d'un meurtre.
Alors, je dirais que c'est bienvenu à Gattaca.
Je pense que tu as laissé traîner une oreille dans ce studio. Donc, c'est Manu qui a trouvé, effectivement, bienvenue à Gattaca. Excellent film d'Andrew Niccol avec l'eugénisme comme thème. Et il donnait la réplique à Ethan Hawke. Alors là, il avait une voix un peu bizarre en version française, je suis désolé, parce que là, on va s'apercevoir qu'il a des voix différentes. Et il y a un moment, dans un des films, il va avoir la voix du doubleur d'Ethan Hawke, qu'on vient d'entendre. Enfin, c'est assez étrange. Deuxième extrait, assez facile.
Qui vous envoie ? Ça ne vous regarde pas. Nous sommes là, c'est tout ce qui compte. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a pris ? Je ne voulais pas dire ça.
C'est ton personnage qui parle. C'est assez schizophrénique comme sensation. Tu vas t'habituer. Certaines choses doivent être dites pour faire avancer l'intrigue et pour camper les personnages. Et ces choses-là se disent que tu le veuilles ou pas. Laisse faire. Ne résiste pas.
Mais toi, tu peux dire ça devant cet homme ?
Regarde-le.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'est mis en boucle. Il n'en sortira pas tant que tu n'auras pas prononcé la phrase qui convient.
Voilà, ça c'était l'indice. Il se met en boucle. Donc tu as trouvé, Manu.
Existence de David Cronenberg. Ouais,
film de 99 avec Jennifer Jason Leigh. Un autre extrait pour découvrir dans quel film a joué Jude Law.
La vraie ironie, c'est que je fais pas semblant. Pas semblant d'être un autre, alors que toi.
Mortel.
J'ai été sincère, je t'ai ouvert mon cœur, sans la moindre méfiance.
Mortel.
Mais toi, si tu veux savoir, il y a quelque chose, je le vois bien. Le soir où on a fait la partie d'échecs, tu vas dire que ça crevait pas les yeux.
Quoi, quel soir?
Bah voyons, non, ce serait trop dangereux, bien sûr que tu le reconnaisses. Oh non, 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 on est frères. Et tout ce que tu trouves, c'est ce truc sordide avec Marge. Il a fallu que tu la baisses sur le bateau, alors qu'on entendait tout. C'était une torture pour tout le monde. Il faut que t'écoutes que ta queue quand on a envie. Et là, tu vas te marier. Non, j'en reviens pas, je m'excuse. Tu racontes des salades, tu mens à Marge, et puis tu l'épouses alors que tu tapais Sylvana. Tu l'avais engrossée, tu bousilles la vie des gens, tu veux jouer du saxo, tu veux jouer de la batterie, décide-toi. À quoi tu joues? Pour qui tu te prends? Hein? Cassia de troisième zone, pour qui tu te prends? De quel droit t'as quoi que ce soit à me dire? Hein? De quel droit? Je t'interdis de me dire quoi que ce soit. D'ailleurs, je me demande vraiment ce que je fais sur ce bateau avec toi. Je peux pas faire un geste sans que tu fasses le même.
Tais-toi.
Tu me donnes envie de vomir. Tu me donnes envie de vomir. À tout bout de champ. Tiki, tiki, tiki. Comme une petite fille sans arrêt. Tais-toi.
Là, je dois dire que le film bascule. Quand il se prend le coup de rame,
on
je
dirait
vois que
un
le film bascule.
Titre de fauve quand le mec parle.
Ah bon? D'accord. Tu penses qu'on pourrait mettre une musique derrière un
c'est
peu
électro?
Il
vraiment okay. Du fauve, il suffit trois notes derrière et c'est bon.
Donc c'est... Est-ce que je vous donne des indices ou... Alors c'est Matt Damon qui donne la réplique. Alors effectivement, on entend largement Matt Damon. C'est Matt Damon qui reproche à Jude Law en fait, d'être un gosse de riche et puis de lui il suppose qu'il est amoureux enfin parce que Matt Damon est homosexuel
le remake de Riley
le talentueux
monsieur
Ripley.
Ah, Ripley par
voilà,
Riley
voilà Riley. C'est ça donc ça a été trouvé grâce
à
aux
deux,
indices
à deux on arrive ouais. À trouver un titre
bravo ouais, ouais. Allez cinquième extrait
remake de plein soleil
ah non quatrième
d'ailleurs. Au nom de quoi me regardez-vous avec un tel désarroi?
Ah mais c'est que je me fais un sang d'encre.
L'on vous a purgé de toute vitalité. Le mariage, c'est la fin de tout, sachez-le.
C'est le commencement, à mes yeux.
L'apocalypse.
La renaissance.
Restriction.
Structure.
Rendre des comptes à une femme. Faire partie d'un couple. Une vie de bonheur conjugal. La possibilité de fonder une famille. Qui aurait l'idée de mourir seul?
Donc nous faisons la foire ce soir comme au bon vieux temps. Vous vous casez, fondez une famille, tandis que je... mourrai seul.
C'est assez bien résumé. Peut-être est-il préférable de mourir seul plutôt que... de vivre dans un éternel purgatoire.
Là, il donne la réplique à Robert Downey Jr. C'était la voix française de Robert Downey Jr. Film de Guy Ritchie. Adaptation.
Ah, c'est les Sherlock Holmes.
Voilà.
Premier ou deuxième?
C'est le deuxième. Mais les deux sont excellents pour moi. Donc voilà. À chaque fois avec cette espèce de gouaille. Ouais, vous n'avez pas convaincu. D'accord. Donc on passe au cinquième extrait.
Dites-leur ce qu'un R022 veut vraiment dire, Dr. Cheever. Allez, un peu de maths, non? Ah, je vais le faire.
Jour 1, il y avait 2 malades du virus. Ensuite, il y en avait 4. Ensuite, il y en a eu 16. Et là, vous croyez que vous en viendrez à bout. Mais ensuite, il y en a 256. Ensuite, il y en a 65 000 et vous êtes débordés. De partout, à droite, à gauche et derrière, en 30 étapes, il y a 1 milliard d'infectés. 3 mois. Un problème de maths à faire sur un coin de table. Et c'est ça qui nous pend au nez. Et c'est pour ça que vous refusez de nous avouer ne serait-ce que le nombre de morts. Vrai ou faux, Dr. Cheever? Mais vous dites à vos amis quand ils doivent quitter Chicago, bien avant que personne d'autre ne le sache.
Donc, ça a été trouvé, Manu?
Oui, pas grâce à Marine, quand même.
C'est oui, qui a donné l'indice. Voilà. Film de Soderbergh. Alors là, on retrouvait encore Matt Damon. Il y avait Kate Winslet, Marion Cotillard. Et alors, l'intérêt, c'est que là, il jouait un blogueur qui voulait...
Avec des dents pourries, c'est ça, non?
Je sais pas s'il avait des dents pourries, mais en tout cas, il...
Enfin... C'est pas grave, non,
en tout cas, il était pointé du doigt comme un agitateur et comme ouais. Celui qui balançait des rumeurs. Enfin, il avait un rôle assez étrange. En tout cas, enfin, dans le film, bon, c'était donc un film de 2011. Dernier extrait cette fois-ci. Bon, un grand film.
Où allons-nous?
Par là maintenant.
Serais-tu dans le pétrin? As-tu dû fuir quelqu'un?
Maman m'a dit de fuir.
Pourquoi t'a-t-elle dit ça?
Je crois que c'est... parce qu'Henri ne m'aimait pas.
Pourquoi ça?
Martin est arrivé chez nous.
Qui est-ce?
Martin est le vrai fils de maman et d'Henri. Dès que j'aurai trouvé la fée bleue, je pourrai rentrer chez moi. Maman aimera un vrai petit garçon. Et la fée bleue va faire de moi un vrai petit garçon.
La fée bleue, la voix du petit garçon, ça a été trouvé.
C'est A.I.
Voilà, A.I. de Steven Spielberg. Spielberg. Voilà, ben ainsi s'achève ce blind test. On va retrouver la crème du film gothique maintenant.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Et s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Enfin, je vais pouvoir vous parler de La Vengeance de Lady Morgan, film qui est sorti donc en DVD chez Artus maintenant
il y a 3 mois, non ?
Il y a au moins 6 mois, hein, mais bon, c'est bon, à force de le reporter, voilà ce qui arrive. Il est quand même en nouveauté encore à la FNAC, hein, donc c'est pas non plus hors actualité. Hein. Alors après Le Cimetière des Morts Vivants et surtout le cultissime Vierge pour le Bourreau, tous deux produits par Ralph Zucker, Massimo Pupilio, spécialiste du documentaire, réalise donc son 3e film fantastique gothique. Le très très rare La Vengeance de Lady Morgan, réalisé en 1965, est l'un des tout derniers fleurons d'un genre qui connut entre 60 et 66 un petit âge d'or avec quelques chefs-d'œuvre comme, pour les plus connus, hein, Le Masque du Démon, Les Amants d'Outre-Tombe ou encore Danse Macabre. Alors le co-scénariste de ce dernier titre, Danse Macabre, avec Sergio Corbucci, réalisateur d'ailleurs de Django, Giorgio Grimaldi est donc l'auteur du script de cette sombre histoire de manipulation matinée de films de fantômes. Ces derniers hantent les dédales d'une demeure obéissant au canon esthétique du cinéma d'épouvante européen des 60s. Alors, contrainte à se marier avec Sir Harald Morgan après le décès tragique de celui qu'elle aimait, la jeune et jolie Suzanne débarque dans un château et semble sombrer progressivement dans la folie. Alors est-elle harcelée par son mari et ses serviteurs ou est-elle vraiment en train de perdre la tête ? La réponse est évidente pour qui n'a vu aucun film fantastique gothique qui applique le même schéma que certains films de la Hammer. Alors la convention est de partir d'une intrigue policière diabolique à base de machination pour dériver vers le fantastique pur. Soit ici la pure ghost story agrémentée d'une incursion dans l'univers du vampirisme. Le problème vient de la structure même de l'histoire qui part un peu dans tous les sens et ne parvient jamais à être vraiment crédible ni surprenante. Au bout de 5 minutes, le spectateur devine les intentions du mari et lorsque le récit bascule dans le surnaturel, Pupilio hésite quant à la direction à prendre. Alors l'amoureux transi revient au château chercher sa belle, devenue à moitié fantôme et humaine. Les fantômes sont aussi des vampires et l'on ne sait plus très bien comment tout cela va se terminer. Alors cette approche du genre un peu confuse n'est pas dénuée de poésie et de quelques idées fulgurantes de pure mise en scène, en l'occurrence une très belle séquence de pseudo-suicide de l'héroïne. Le déficit narratif est compensé par le savoir-faire de Pupilio qui, sans être du niveau de Mario Bava ou de Margheriti, parvient à instaurer quand même une ambiance déliquescente et mélancolique, une inquiétude permanente grâce à la qualité des décors et de la photographie en noir et blanc, un sens plastique indéniable qui compense les faiblesses d'un film rare et assez envoûtant. Alors la beauté d'Erika Blanc, hein, la présence imposante de Cameron Mitchell et enfin l'excellente prestation de Paul Muller achève de rendre cette petite pépite d'épouvante plus que comestible et je le répète, c'est lié surtout, je dirais, à la très grande rareté de ce film qui fait que c'est un achat indispensable pour les amateurs du genre.
Donc chez Artus, hein,
c'est disponible chez Artus, hein, qui ont pratiquement sorti tous les films gothiques italiens restants. Et je signale qu'en juillet, ils vont sortir le dernier titre important, Les Amants d'Outre-Tombe de Mario Caiano.
Et après, ils rentrent dans une dépression parce qu'ils en ont.
Eh ben, il y en a plus, il n'y en a quasiment plus.
Eh oui.
Bon. Mais ils sortent d'autres choses, Super Drago, Diabolique. Ils ont encore de la matière dans le film, on va dire bis italien. Il y a énormément de choses à sortir.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Alors là, normalement, c'est l'agenda, mais j'ai rien trouvé. Alors, la semaine prochaine, il y aura bien le week-end du cinéma belge à Frontignan, mais à part ça, je n'ai pas trouvé grand-chose. Si les courts-métrages à l'Utopia, demain, courts-métrages régionaux, voilà. Donc on peut quand même aller voir ce qui se produit en région Languedoc-Roussillon.
C'est l'or ! Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Aujourd'hui, à la technique, il y avait Tom qui a fait 2 erreurs. Donc, comme chez les Yakuza, ça fait 2 doigts en moins. Et oui, il faudra y passer. Sinon, 24 notes secondes, après, ce sera quoi ?
Le compositeur Thomas Newman.
Et merci à Marine qu'on ne retrouvera peut-être pas la semaine prochaine.
Ah non, faut pas déconner. Hein.
Voilà, c'est des surprises hein, de temps en temps, des petites pépites. Merci.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
sur Divergence FM.